Bonjour et bienvenue sur le podcast de Moodstep où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, nous abordons le thème crucial de la communication. Pascale Molot est médecin et elle a écrit un livre sur la CNV, la communication non violente, que vous pouvez trouver aux éditions Le Duc. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur et votre hôte pour ce podcast. Nous retrouvons tout de suite Pascale. Bonjour Pascale.
Bonjour Johanna.
Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Nous allons aujourd'hui parler d'une technique de communication que l'on appelle par son petit nom la CNV, la communication non violente. Mais avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter ?
Tout à fait. Donc, je suis de premier métier, je suis médecin. J'aime bien dire de premier métier parce que mon deuxième métier depuis 16 ans maintenant, c'est d'être formatrice et consultante à plein temps. Et mon travail est basé sur la transmission de la communication non violente. Alors, ce qui m'a... Beaucoup de gens sont étonnés que de médecins, ils me disent « Mais comment de médecin ? J'étais médecin hospitalier. Comment vous êtes passé de médecin à formatrice ?» Et pour moi, il y a une logique, en fait. Mon fil conducteur, ça a toujours été la relation. Depuis que je suis gamine, j'aimais bien faire parler les personnes qui étaient muettes, notamment à l'école. Mais surtout, comme médecin, en fait, on est très jeune confronté aux émotions des patients, à l'annonce de mauvaises nouvelles, à quoi faire de nos propres émotions. Et puis le milieu hospitalier, loin d'être un milieu empreint de bienveillance et d'humanité, aussi beaucoup de conflits. Et donc, mais quand même, vraiment, mon point de départ, ça a été un petit peu mes émotions et mon patron qui disait que j'étais trop sensible et que je ne ferais jamais à mon médecin. Donc, ça m'a choquée et donc j'ai cherché. J'étais affamée de trouver des formations et j'ai été guidée de fil en aiguille. En commençant d'abord par les soins palliatifs, où j'ai beaucoup appris, notamment grâce à une psychologue, Martine Rusniewski, avec qui j'ai suivi beaucoup de formations et qui a animé un groupe de parole dans le service où j'étais chef de clinique. Et après, de fil en aiguille, des amis m'ont dit « Mais voilà, Pascale, toi qui te questionnes toujours sur la relation avec les patients, avec les familles, qui t'en veut, si le contact n'est pas excellent, tu devrais rencontrer ce Marshall Rosenberg qui passe à Paris. Il va animer une formation en communication non violente. » Et j'avoue que ça...
Ah donc, vous avez appris directement avec Marshall Rosenberg ?
Eh oui, bah oui, j'ai eu cette chance.
Waouh !
Et je l'ai traduit, j'ai eu la chance vraiment de le traduire pendant plusieurs années, donc d'être vraiment très proche, et même de voyager avec lui aussi. Voilà.
Ah, on peut peut-être rappeler qui est Marshall Rosenberg, et puisque c'est le fondateur de la communication non violente, et peut-être en profiter pour faire un petit point sur l'histoire de comment est née cette communication non violente.
Oui, tout à fait. Donc, Marshall Rosenberg, il est né en 1934 aux États-Unis et il est décédé le 7 février 2015, donc un petit peu moins de deux ans.
Il y a très peu de temps.
Oui, il y a très peu de temps. Alors, on peut dire qu'il est né aux États-Unis, mais il se définissait bien davantage comme un citoyen du monde entier, puisque son travail l'a amené à voyager dans le monde entier. Et lui, avant d'être un psychologue clinicien, avant d'être le fondateur de la communication non violente, c'était avant tout un petit garçon qui observait énormément et qui a observé la violence qu'il y avait autour de lui, notamment du fait d'avoir un nom juif, que ce soit à l'école ou dans d'autres milieux. Il a aussi été témoin des émeutes raciales à Détroit dans les années 1944. Et puis, il a eu la grande chance aussi de vivre dans une famille, notamment avec une grand-mère, où il y avait énormément de compassion. Et donc, il a été très frappé d'emblée, il le décrit dans ses livres, par deux types de sourires. Le sourire des personnes qui, visiblement, prennent plaisir à voir les autres souffrir, et au contraire, le sourire radieux de personnes comme son oncle qui ont tellement de joie à contribuer à enrichir la vie d'autrui, à contribuer au bien-être d'autrui. Donc, il s'est très, très jeune questionné sur qu'est-ce qui nous fait basculer dans un comportement destructeur, nuisible, qui va à l'encontre de la vie et de nos valeurs, ou qu'est-ce qui nous permet au contraire de rester profondément en contact avec notre humanité et ce que lui considère comme étant la base de notre humanité, à savoir notre compassion naturelle.
Qu'est-ce qui nous permet de rester en contact avec cette humanité ?
Alors lui, du coup, il a fait des études de psychologie clinique parce qu'il a trouvé que c'était ce qui allait peut-être l'éclairer le plus sur son questionnement. Et il s'est aperçu qu'en fait, ça avait beaucoup à voir avec notre langage, c'est-à-dire la manière dont on a été formé ou déformé les uns et les autres à penser et à communiquer. et qui a un langage qui, à notre insu, justifie des comportements violents, des comportements de domination, et un langage qui sépare, en fait, en étiquetant un langage qui est très binaire, en étiquetant ce qui est bien et ce qui est mal, et qui nous coupe peu à peu, en fait, de nous-mêmes et des autres.
Mais c'est notre langage à tous, ça. C'est quoi ce langage dont vous parlez ?
Alors, notre langage à tous, il reste encore quelques groupes, et vous rencontrez hein, sûrement plein de personnes qui sont restées en contact naturellement avec le bienveillant. Alors, la bienveillance, certains collègues n'aiment pas le mot bienveillance, mais en tout cas avec fondamentalement la conscience de notre interdépendance, à savoir que mes besoins ne peuvent pas être satisfaits au détriment des vôtres, et qu'on est tous extrêmement liés.
Et donc c'est au-delà du langage, c'est d'où vient le langage, d'où il, où est-ce qu'il met ses racines, d'où on parle, c'est ça ?
C'est la manière dont on a été conditionné à penser, à communiquer. Parce que quand vous prenez les enfants, énormément de travaux maintenant qui sont faits dans les crèches montrent que l'enfant, le tout petit enfant, est naturellement empathique, que l'empathie nous est naturelle. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, tous les travaux sur les neurosciences le montrent, que si l'enfant est élevé dans un climat où il reçoit de l'empathie, il reste en contact avec sa bienveillance naturelle, avec son souci de l'autre. Mais peu à peu, le système éducatif vraiment va nous déformer, nous étiqueter, nous blâmer, nous juger, nous comparer, nous menacer ou au contraire nous récompenser. Et tout ça, ça nous éloigne d'un mouvement très naturel et spontané qui vise à prendre soin les uns des autres. Et à être la conscience qu'on est interdépendant, elle existe, je dirais, elle est naturelle dans le monde, quoi.
Donc, quand on apprend la communication bienveillante, en fait, on apprend à se relier à soi et à être dans cette écoute empathique de soi et des autres.
Je préfère qu'on garde, Johanna, le terme communication non violente, parce que si Marshall Rosenberg a...
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Ah, vous avez dit bienveillante. Vous avez dit
communication
bienveillante.
Ah ouais, mais je m'en suis même pas rendu compte, voilà. C'est marrant.
Mais c'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ce terme. Mais j'insiste parce que Marshall Rosenberg tenait beaucoup au terme de communication non violente, même si beaucoup de personnes disaient que c'était une formulation négative. Pourquoi ? Parce qu'il est dans la lignée de Martin Luther King et de Gandhi. Et dont on dit que Gandhi, par sa seule présence, en fait, il suffisait à désamorcer les conflits. Donc oui, quand on apprend la CNV, on réapprend quelque chose de naturel, à savoir de parler de soi et de ce qui est important pour nous, et de chercher à se relier sur ce qui est important pour l'autre, ce qu'il cherche à dire, au-delà de qui a tort, qui a raison.
Il y a des piliers, il y a des étapes dans cette communication non-violente, j'allais recommencer, dans cette communication non-violente. Est-ce qu'on pourrait les traverser, les quatre étapes de la communication non-violente, pour comprendre comment on l'utilise, en fait ?
Oui, tout à fait. Et je dirais qu'avant même, tout à l'heure, vous avez dit en introduction que la communication non-violente était une technique. Nous, on n'aime pas tellement le mot technique, on dirait davantage une pratique, parce que elle est fondée sur une intention. Donc avant même de décrire les quatre étapes, c'est vraiment la clé, c'est l'intention. Et l'intention, je dirais, dans le monde où on est séparé dans la violence, c'est de jouer à qui a tort, qui a raison, de vouloir convaincre et de dominer. Et là, ce qui sous-tend la communication non-violente, c'est l'intention de créer une qualité de relation avec l'autre, de chercher à se rejoindre au cœur de ce qui est essentiel pour chacun. Et à partir de là, en fait, quand il y a ce contact, cette connexion qui est établie au niveau de ce qu'on appelle les besoins, en tout cas l'essentiel pour chacun, de ce qui est en jeu pour chacun, inévitablement, il y a une bonne volonté, un désir de trouver des solutions qui vont répondre aux besoins des deux personnes qui émergent. C'est assez saisissant. Donc, avant même de vous décrire les quatre étapes, on insiste énormément sur l'intention. Qu'est-ce que je cherche ? Vous parliez d'un manager avec un collaborateur. Imaginons un collaborateur qui aurait fait une erreur. Ou bien, la semaine dernière, j'étais dans un hôpital où il y a beaucoup de conflits entre les cadres de management et puis les représentants, en tout cas du personnel. Et avant même d'envisager une rencontre, il y a tout un travail préalable pour vérifier si je suis dans la disposition de vraiment chercher à rencontrer mon interlocuteur, à le comprendre. Non pas pour le justifier, mais pour vraiment comprendre son point de vue. On utilise aussi, nous, la métaphore d'aller sur la colline de l'autre.
Ça me fait penser quand vous expliquez ça, est-ce que en fait on peut utiliser la communication non violente et est-ce qu'elle fonctionne quand les deux parties ne sont pas dans cette démarche?
Oui, et ça c'est sa grande force. Hein. En tout cas, c'est la grande force parce que c'est une démarche qui va nous redonner notre pouvoir personnel. Et la plupart du temps, soyons clairs, Joanna, la plupart du temps, mes interlocuteurs, ils ne sont pas formés à la communication non violente. Sinon, ça restreindrait drôlement, je dirais, ma communication, quoi.
Non, parce que là, vous parliez d'une situation qui est une forme de médiation entre deux parties où on les prépare pour qu'ils puissent se comprendre.
Là, je ne préparais pas les deux parties. J'avais avec moi des chefs de service et des cadres supérieurs hein, dans cet D'accord. hôpital. D'accord. Mais ils en voulaient beaucoup aux représentants du personnel. Parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient contre eux. Par exemple, en divulguant des informations ou bien en organisant des réunions avec le personnel sans les prévenir. Donc, voilà, moi, mon travail en premier, c'est déjà d'écouter la colère de ces personnes. Et puis après, de leur montrer comment s'intéresser à qu'est-ce qui peut motiver ces personnes, par exemple les représentants du personnel, à agir comme ils ou elles le font. Vous voyez ce que je veux dire ? Par exemple, là, les représentants du personnel, ils ne vont pas être préparés ou ils n'auront pas, ou peut-être qu'ils vont les rencontrer sans moi. Mais en tout cas, on a travaillé sur est-ce que j'ai une ouverture et une intention d'aller à la rencontre de l'autre ou pas ? Parce que parfois, on n'a pas envie, quoi. Et dans ce cas-là, la communication non violente va nous aider à travailler sur notre propre colère.
D'accord. On peut aborder les quatre étapes si c'est...
Oui, continuons avec cet exemple parce que je trouve qu'il est intéressant. Donc, si moi je suis le cadre supérieur et je m'adresse aux représentants du personnel, je dirais voilà, la première étape, ça va être de poser les faits. Donc, c'est l'observation des faits. Parce que quand on discute, c'est important de savoir de quoi on parle. Donc, les faits, par exemple, c'est je constate que vous avez organisé une réunion du personnel dans le service. Voilà, et que j'ai découvert cette réunion, je ne crois pas avoir reçu d'informations. Vous voyez, donc la première étape, c'est les faits. Vous avez organisé une réunion avec le personnel dans mon service. Et la deuxième étape, c'est je suis contrariée, donc c'est-à-dire que je vais parler de ce que je ressens. Et là, toute la force de la communication non violente, c'est de parler de sentiments qui ne parlent que de moi, et non pas de sentiments qui accusent implicitement l'autre. Par exemple, si je dis voilà, je me suis sentie déconsidérée.
Ça veut dire que l'autre n'a pas de considération pour nous, donc on l'accuse de quelque chose, c'est ça ?
Exactement. Voilà. Par contre, si je dis je suis contrariée ou voilà, je suis un petit peu triste, et surtout que je fais le lien avec la troisième étape, c'est-à-dire avec mes besoins, avec ce qui est essentiel pour moi.
Bah donc les sentiments, c'est assez. Il doit pas y en avoir pléthore, c'est-à-dire. Les sentiments, ça va être quoi ? Parce que ce qui me semble essentiel, et on arrive à cette étape du besoin, c'est le besoin, le sentiment. Pourquoi on a cette étape d'exprimer son sentiment plutôt que directement son besoin ?
Alors, c'est pas indispensable, mais en même temps, ça nous permet de nous relier à notre humanité, Joanna. Voilà, si je vous dis effectivement, je suis un peu chagrinée ou je suis un petit peu contrariée, je me montre vulnérable. Et arriver à quitter les étiquettes et à ce que vous puissiez me voir comme un être humain et réciproquement que moi, je vous vois comme un être humain, c'est important. Donc, on n'est pas du tout obligé de les exprimer, les sentiments. Le plus important, c'est d'en avoir conscience, de voir à l'intérieur de moi voilà, que je peux être un petit peu chagriné ou un petit peu blessé, de façon à en prendre la responsabilité et surtout à ne pas accuser l'autre.
Donc ces exemples de sentiments, à part la colère, la contrariété, il y en a beaucoup, parce que des fois, on n'a pas beaucoup de vocabulaire, en fait, pour identifier nos sentiments.
Non, alors, au début, je dis aux personnes de regarder dans les grandes catégories. Est-ce que je suis plutôt joyeuse quand je découvre que quelqu'un fait cette réunion dans mon service et que je ne suis pas prévue ? Non. Donc, je pourrais être en colère. Dans la colère, j'accuse que l'autre a tort. Et sous la colère, au fond, il y a quelque chose de l'ordre de la tristesse, de la contrariété, de la déception, ou bien de la peur, de l'inquiétude.
Ouais.
Vous voyez, il y a un petit peu un mix. Là, il y a un petit mélange de tristesse, mais voilà, une cadre supérieure ne va pas dire « je suis triste », ou bien un peu d'inquiétude.
Ok.
Voilà, après, certaines personnes parlent du dégoût ou autre chose. Mais en tout cas, toujours aux personnes, chercher dans cette catégorie. Mais souvent, je suis un petit peu frustrée ou un peu contrariée ou inquiète ou tendue. Après ça, vous avez toutes les sensations corporelles qui sont très intéressantes à regarder.
Ah oui.
Parce qu'à partir du ressenti corporel, ça va nous informer et ça peut permettre aussi de désactiver des émotions fortes. Mais gardons notre fil conducteur. Là, j'avais pris l'exemple donc, d'un cadre supérieur qui découvre qu'une réunion organisée par le représentant du personnel a lieu dans son service et qui, n'ayant pas eu vent de cette réunion, se sent contrarié, peut-être un peu tendu et inquiète parce que le besoin, ça a à voir avec un besoin de sécurité, un besoin aussi peut-être de soutien. Et en explorant la situation, on a trouvé que c'était ça, c'était surtout un besoin de soutien par rapport à une impression que les représentants du personnel allaient contre. Donc on a vu qu'il y avait une réelle aspiration à la coopération et du soutien, tout en respectant les tâches de chacun. Ça, c'est donc la troisième étape qui est fondamentale, c'est je prends la responsabilité de ce que je ressens. Moi, c'est ce qui me plaît énormément dans la communication non violente, c'est une démarche qui est très responsabilisante. Et puis après ça, comme je vous ai dit au début que mon intention, c'est de créer une qualité de lien, alors je vais faire une demande et je demanderai à ces représentants du personnel, voilà, ça me rassurerait si vous me disiez comment est-ce que vous comprenez ce à quoi j'aspire et qui là m'a un peu contrarié.
Oui, donc c'est pas forcément, là, parce que là c'est une formation, c'est une demande de reformulation, on va dire, d'une certaine manière, c'est pas forcément une demande concrète, j'aimerais que la prochaine fois que vous faites une réunion, vous me préveniez ou des choses comme ça.
Non, parce que là, vous soulevez un point qui est essentiel. Nous sommes conditionnés, surtout souvent dans le monde de l'entreprise ou dans les établissements de santé, qui pour moi sont pareils, à aller très vite à l'action. Et là, on va dans le mur, parce que les représentants du personnel peuvent dire oui, et puis de toute façon, elles me préviendront jamais. Ça fait 3 ou 4 fois que j'ai la même conversation. Vous comprenez ? Ce qui est essentiel, c'est que la personne comprenne que c'est pas parce que je contrôle, c'est pas parce que je suis méfiante, mais c'est parce que j'ai un réel désir d'explorer une collaboration qui soit au service de notre mission commune, à savoir le bien-être des salariés et des patients, et de quitter les images d'ennemis. Donc, et nous interprétons tellement. Une des premières règles de la communication non violente, ça va être de vérifier nos interprétations. Du coup, quand je fais une demande de reformulation, c'est pour m'assurer qu'on est bien sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on se comprend bien à un niveau qui est essentiel. Parce que forcément, les représentants du personnel ont des préjugés sur moi. Vous voyez ? Ont des représentations des figures d'ennemis, et réciproquement. Donc là, il y a un vrai travail de nettoyage de nos préjugés.
Mais ça veut dire que la demande, cette étape, va souvent être une demande de clarification ou de reformulation ou de compréhension.
C'est ça, ou une demande d'expression. J'aimerais savoir, du coup, comment vous réagissez à ma proposition. Comment c'est pour vous de m'entendre.
Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait ? Donc de faire rentrer l'autre dans ses propres sentiments, en fait.
C'est ça, et d'une manière, comme on est en milieu professionnel, on va essayer plutôt de dire, j'aimerais savoir voilà, comment vous voyez les choses, comment vous réagissez, comment vous vous situez par rapport à ma demande, vous voyez ? Parce qu'en milieu professionnel, les personnes ne sont pas forcément à l'aise de parler de leurs sentiments. Et en même temps, on veut sortir du débat de qui a tort, qui a raison, vous voyez, et d'un débat frontal. En amenant les personnes, ce qu'on veut mettre sur la table, notamment en milieu professionnel, parce que je crois que votre interview, c'est vraiment pour les managers aussi, c'est quels sont les enjeux des deux parties, de façon à dégager, on va dire des besoins professionnels, entre guillemets, sur lesquels on peut être d'accord. Et ça a à voir aussi avec notre mission après ça.
Quand je regarde un peu tout ça, j'ai l'impression qu'il est difficile pour nous, par exemple, on rentre dans un conflit, il est difficile pour nous de voir notre vrai besoin, puisqu'en fin de compte, en étant en conflit, on extériorise la cause de notre malheur, mal-être à l'extérieur de nous. Elle est située chez l'autre qui s'est mal comporté ou qui a, selon nos critères. Et comment on arrive à se connecter avec son besoin ? Est-ce que, en tout cas, vous, dans votre expérience, c'est quelque chose de difficile ? Est-ce qu'il y a des choses qui débloquent ça ? Ou comment on peut reconnaître son propre besoin ?
Alors, c'est effectivement difficile et puis c'est passionnant. Première clé, première chose, vous prenez tous vos jugements. Les jugements que vous avez sur vous-même ou sur les autres, Voilà, ou bien les impressions, les jugements ou les impressions. Si vous avez l'impression d'être trahi, vous faites une traduction, ça veut dire que vous avez besoin de... confiance.
De soutien.
Ou de confiance.
Ah, de confiance.
Mais, d'accord. Si vous avez l'impression d'être déconsidéré, vous avez un besoin de considération.
Oui, considération. Oui.
Alors, si vous avez l'impression d'être incomprise, vous avez un besoin de...
d'écoute ou...
de vous sentir comprise, de compréhension. Oui. D'accord. Si vous vous sentez exclue, mise à part, vous avez un besoin...
d'inclusion.
D'inclusion ou d'appartenance. Mm. Ah, si vous vous sentez méprisé ou pas considéré, ça je l'avais déjà dit, pas considéré, en tout cas vous avez besoin de reconnaissance ou de considération. Vous voyez,
donc, et ça, c'est suffisant, l'expression. Donc, parce que moi, je pense à un cas extrêmement pratique dans lequel je suis et je me dis qu'il va falloir que j'aille dans cette communication. Et c'est vrai que c'est dur quand on voit l'autre comme un agresseur.
Oui.
Comment est-ce que c'est suffisant? En tout cas, moi, je suis face à une femme de pouvoir et qui a le pouvoir, littéralement, hein, de... Rien qu'en allant, en faisant l'observation de ce qui se passe, en exprimant mon sentiment et le besoin que j'ai, et en faisant une demande à cette femme de voir si elle comprend ce que je dis, vu d'où je suis actuellement, je me dis, mais en quoi ça va être suffisant face à un tel roc ?
Alors attention, on n'y est pas du tout, on ne va surtout pas aller comme ça. Là, ce que je vous disais dans ces quatre étapes, elle peut d'abord s'appliquer à l'intérieur de vous.
D'accord.
Donc déjà, vous allez voir à l'intérieur de vous. Et puis là, ce qui me frappe dans votre exemple par rapport à cette personne, c'est que vous avez déjà beaucoup d'images, entre guillemets, d'ennemis par rapport à elle. Vous la voyez
complètement.
Vous la voyez comme une femme,
complètement.
Comme un roc. Mmh. Donc là, il va y avoir deux pistes. Un, c'est de ressentir dans votre corps notamment, qu'est-ce que ça vous fait quand vous êtes face à cette femme ? Vous vous sentez insécurisé, vous avez peur, vous vous sentez rapetissé, comment vous êtes physiquement ?
Alors, je l'ai vu qu'une fois, mais je me suis sentie... Physiquement, ça allait, mais j'avais la sensation d'être face à quelqu'un qui voulait me dominer. Donc, je suis pas dans moi, c'est ça qui est compliqué. J'arrive même pas à voir en moi à ce moment-là. Par contre, quand j'ai appris quelles actions elle menait derrière... Je me suis sentie trahie
Louée, flouée.
J'ai senti l'injustice, quoi. Injustice, quoi. Injustice totale. Voilà. Pour moi, c'est un abus de pouvoir.
Donc, vous voyez, il y a à la fois un vécu à l'intérieur de vous, vraiment de colère et de révolte, par rapport à des besoins de confiance, de respect, si vous avez l'impression d'être volé. Et puis... par rapport à l'abus de pouvoir, j'imagine vraiment un besoin de vivre des relations d'égal à égal, de considération mutuelle ou de coopération, quelque chose comme ça ?
Bah oui, parce que c'est comme ça que je vis ce que je fais dans mon métier. Et donc, c'est vraiment étonnant de se retrouver dans cette situation, ce qui ne répond pas du tout à votre question. Mais
en tout cas,
c'est ça.
Ça a à voir avec des valeurs fortes que vous portez en termes d'éthique de la profession, de respect mutuel et de confiance.
Oui, il me semble que cette femme, c'est quelque chose qui lui est complètement étranger.
C'est ça, mais avant de vous occuper
d'autres... c'est quelque chose que j'ai senti. J'ai senti une espèce de peur dans le groupe que je facilitais. Et je l'ai exprimé, et j'ai l'impression que je deviens le problème. Et donc, il faut que je ressente la même peur que ce groupe. Et c'est elle utilise des moyens très concrets pour que je ressente ça. Ça, c'est mon sentiment, mais encore une fois, je suis chez l'autre, là. Et je me rends compte à quel point c'est difficile de rester chez soi.
Oui, en tout cas, ce que vous observez, en tout cas, il y a plusieurs portes d'entrée pour avancer sur cette situation. Un, c'est vraiment vous observer certaines choses dans son comportement qui, pour vous, sont des formes d'abus de pouvoir. Ensuite, ça vous met en insécurité, quelque part, et ça vous fragilise, parce que, il me semble, à comprendre ça, et j'ai l'impression que vous vous sentez un peu démuni par rapport à comment agir avec une telle forme, une telle personnalité.
Ouais. Oui, bien sûr.
Que là, vous avez un peu des doutes qu'avec ce qu'on est en train de voir assez rapidement, vous pourriez vous faire entendre, en tout cas, de cette personne. Donc, la première étape, comme vous le dites, c'est déjà de rentrer un peu chez soi, de prendre la mesure de l'impact de ce que ça vous fait, de combien ça vous choque dans vos valeurs, et puis de cette insécurité et de ce besoin de pouvoir, faire entendre quelque part vos valeurs. Mais avant de les faire entendre à l'autre, c'est déjà important de les entendre de soi à soi. Donc, parfois, c'est difficile de le faire tout seul. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que dans la communication non-violente, tout à l'heure, en me présentant, je n'ai pas donné toutes mes activités. J'anime soit des formations, soit je fais des accompagnements d'équipe, ou bien des accompagnements aussi individuels. Voilà, c'était juste pour vous dire que il y a des situations qui sont des gros morceaux, et ça ne suffit pas, ce n'est pas en ayant lu les quatre étapes dans un livre qu'on va pouvoir y aller. Après ça, une clé qui est importante, c'est si vous arrivez comme si vous écriviez tous vos jugements sur elle sur un post-it, ensuite vous mettez les post-it de côté. Et maintenant, 30 secondes ou une minute, vous allez chercher, au-delà des préjugés que vous avez sur elle et des images, essayer d'aller, la rencontrer au niveau de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut se passer chez elle quand elle se comporte de cette manière-là. Et là, on aborde le deuxième volet de la CNV qui est fondamental, c'est l'empathie. Et l'empathie, c'est pas justifier le comportement de l'autre. C'est avoir cette espèce de curiosité sans objectif de résultat. Il y a à la fois une forme de détachement et en même temps une curiosité passionnée de qu'est-ce qui peut se passer chez l'autre. Moi, quand j'ai rencontré la communication non-violente, je n'avais qu'une hâte, c'était de retrouver les personnes que je ne pouvais pas supporter, que ce soit des patients ou d'autres personnes à l'hôpital, quoi. Pour essayer vraiment de me dire, mais qu'est-ce qui peut se passer chez ces personnes qui, moi, me fait réagir? Et elle, quand elle a un comportement comme ça de domination, si je reprends votre étiquette, à votre avis, qu'est-ce qu'elle cherche? Comment elle se sent à votre avis et qu'est-ce qu'elle recherche, cette femme?
Elle recherche la sécurité.
Voilà.
Quoi, je pense qu'elle cherche à maîtriser, et notamment à maîtriser son image, et que par mon activité, par ce que je fais, c'est comme si je soulevais un problème ou quelque chose qui se passe. Et elle a utilisé le mot de « ça me met en porte-à-faux », alors qu'elle n'est pas du tout impliquée dans ce qui s'est passé. C'est ça c'est intéressant. Après, il faut pouvoir en parler, ce qui ne me paraît pas évident dans ce cas-là, mais je vais peut-être aussi sortir. Mais c'est très intéressant parce que je me dis, il y a beaucoup de violence dans le monde, on en voit un peu partout, et quand on se sent acculé ou quand on se sent, on va dire victime, pour faire gros, d'une injustice, comment ne pas aller dans quand même, c'est-à-dire ne pas rester apathique face à des situations comme ça, parce que quelque part c'est les accepter, je ne crois pas que ce soit la solution, mais comment ne pas aller dans un conflit qui utilise les mêmes armes que ce qu'on reproche à l'autre, en fin de compte, que cette violence que l'on voit chez l'autre. Donc c'est tout le questionnement, et c'est pour ça que je trouve que la communication non violente est vraiment un outil fabuleux pour essayer de comprendre comment être en réelle communication avec l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a, moi, là, je vois ce cas, autant j'en ai eu plein. Déjà, cette personne n'est pas atteignable, on va dire qu'il est très difficile de pouvoir la joindre. Mais en plus, vraiment, je me dis que des fois, certaines personnes semblent avoir une telle carapace. Mais encore une fois, c'est « il semble ». Il faudrait que je laisse même tomber ces préjugés-là et que je vois. Mais c'est vrai que ne pas rentrer dans « je vais utiliser les mêmes armes ».
Ah, ok, donc je vais essayer de répondre, Johanna, parce que voilà. Donc déjà, avoir cette conscience, c'est déjà énorme. En tout cas, ce que vous venez de dire, donc déjà avoir cette conscience que de réutiliser les mêmes armes et de rejouer à qui a tort, qui a raison et d'essayer de dominer, voilà, on sait très bien que la guerre n'a jamais permis d'atteindre la paix. En tout cas, la première chose, c'est de prendre la mesure de l'impact émotionnel de ce que son comportement provoque chez vous. Et ça, ça va nous amener à ça, ça nous fait toucher des blessures et des peurs inconscientes. Donc déjà, prendre la mesure de l'impact émotionnel et se donner de l'empathie à soi, c'est-à-dire se considérer soi-même et se dire « oulala, c'est vraiment rude, moi j'entends que vous êtes hyper déçu, que cette personne interprète vos actions et votre présence comme un danger et puisse se sentir en porte-à-faux parce que ce n'est pas du tout votre intention ». Et donc c'est la première clé, hein, j'aime bien donner 5 R, c'est vraiment de ralentir et de respirer et de ressentir ce que ça nous fait. Voilà, déception d'être vu comme ça parce que c'est tellement loin de votre intention. Donc après ça, si on est trop blessé, c'est sûr que c'est important d'avoir des personnes qui peuvent nous écouter avec empathie. Hein, dans tous nos projets sur le changement social, Marshall, il disait toujours ce qu'il appelait le « despair work », c'est-à-dire quand on veut vraiment travailler sur un projet de changement social, avoir une équipe de soutien qui va régulièrement nous accueillir dans notre désespoir justement de vivre dans un monde de violence et d'être pris dans des jeux de pouvoir comme ça. Et pour pouvoir durer, hein, en mars, je vais donner une conférence à Rennes justement sur la communication non violente pour durer, bah, dans des métiers qui sont éprouvants. Donc, il y a comme un temps, si vous voulez, pour se restaurer au sens ouf, après un choc, pour prendre la mesure de l'impact. Et puis après, pour ne pas entrer, pour sortir de ce jeu de confrontation, hein, le conflit est nécessaire, Johanna. Hein. Je fais une grande différence entre conflit.
Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Le conflit, pour qu'on collabore, pour qu'il y ait une vraie collaboration. Une collègue américaine, Mickey Kashtad, nous le rappelait la semaine dernière, s'il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de collaboration. Le conflit, ça vient du latin confluere, confluent, comme deux confluents d'une rivière, ça bouillonne et après c'est calme. Donc, c'est vraiment nécessaire d'apprendre à faire quelque chose de fructueux de nos désaccords. Par contre, la confrontation, ça casse, hein, c'est comme les cerfs, la confrontation avec leur bois, vous savez, quand ils luttent pour une femelle et après ça casse. D'accord ? Donc là, c'est bien qu'il y ait ce désaccord. Et puis, donc là, de vous dire, on n'est pas d'accord, qu'est-ce que l'autre a à m'apprendre ? Qu'est-ce qu'elle a à me montrer ? Et là, vous avez déjà la clé, parce que quand je vous ai posé la question, qu'est-ce qui peut se passer chez l'autre ? Vous vous êtes dit, sans doute, elle se sent en porte-à-faux. Donc vraiment, une des clés, c'est de se rappeler que l'autre est aussi un être humain, qu'on a tous les mêmes besoins, et que même maladroitement, l'autre cherche à satisfaire des besoins avec une stratégie qui pour l'instant ne vous va pas du tout par rapport à vos valeurs. Vous êtes d'accord ? Mais pour l'instant, elle-même...
Pas du tout, même, je dirais. Ouais. Parce que si j'étais dans le jugement... Et j'ai été dans le jugement immédiatement. Mais...
Voilà. Et voilà, mais c'est important. Donc, je constate mes jugements et puis l'impact, la réaction de colère et notamment l'accueil sensoriel. Moi, j'ai été très aidée aussi par la méthode qui s'appelle Tipeee de Luc Nicon, où on apprend à...
Oui, je l'ai fait il y a très très longtemps, il y a peut-être 10 ans, au tout début où il a développé la technique.
Voilà, mais je vais garder le fil, Johanna. Donc, en fait, ça va nous aider à accueillir. Donc, quand l'autre a un comportement choquant, j'accueille l'impact, qu'est-ce que ça fait dans mon corps? 2, je constate tous mes jugements et mes images d'ennemis. 3, je respire et je me relie à mes besoins, jusqu'à ce que je trouve vraiment un apaisement. Et puis, je vais chercher de l'écoute si j'en ai besoin. Et puis, quand je retrouve un espace en moi de disponibilité, je me rappelle que l'autre a aussi sans doute des besoins, et souvent les mêmes besoins que moi. Et là, vous voyez, elle est en porte-à-faux, donc elle a comme vous besoin d'être rassurée, de considération par rapport à son travail, de respect aussi de son territoire. Et probablement que vous avez les mêmes besoins. Et une fois que j'ai fait vraiment ce qu'on appelle un peu ce temps d'empathie silencieuse, c'est-à-dire je cherche à me relier à ce qui peut se passer chez l'autre. Vous voyez, cette clé, c'est vraiment l'autre a aussi des besoins. Et puis, se rappeler l'intention fondamentale, en tout cas à la base de la communication non violente, c'est que mes besoins ne peuvent pas être satisfaits au détriment de ceux de l'autre et réciproquement. Et après, si je me sens trop vulnérable pour y aller seule, enfin, l'important, c'est de chercher vraiment un moment où je me sens disposée et disponible pour privilégier la qualité de la relation par rapport au résultat, en tout cas en résultat à court terme. Et c'est un postulat de base que si je m'ouvre, si je vais vers l'autre avec cette intention, en tout cas qu'on se rencontre, et de chercher à me relier à ce qui est vivant chez l'autre, à ce qui est essentiel, à ce qui est, je dirais, au levier et au moteur de son comportement, il y a de grandes chances pour qu'on puisse se rencontrer. Et que des solutions en découlent, des solutions innovantes, c'est à la base de l'intelligence collective et aussi du mouvement des entreprises libérées où il faut créer un climat de confiance.
Bah écoutez, c'est très éclairant. Alors, on est arrivé au bout du temps, même on l'a déplacé depuis longtemps. Mais oui. Je voulais quand même conclure parce que je voyais dans votre livre, donc vous avez publié chez les éditions Le Duc un livre qui s'appelle tout simplement La communication non violente, que vous avez coécrit avec Geneviève Boucher-Wilson, c'est ça ?
Tout à fait.
Oui. Et dedans, vous mentionnez que la CNV, puis c'est son petit nom, la communication non violente, est une pratique de spiritualité laïque, ou j'ai mal compris.
Oui.
Qu'est-ce
oui,
que vous entendez par là et qu'est-ce que ça veut dire et aussi comment ça s'inscrit dans un changement social, parce que j'ai l'impression que la CNV, c'est pas juste, elle est pas juste au niveau de l'individu, mais elle a un rôle sûrement à jouer sur les collectifs.
Oui, c'est vraiment le. Quand on demandait à Marshall Rosenberg qu'est-ce que c'est que la CNV, franchement, parfois il disait je ne sais pas, je n'en sais rien. Donc c'était fort quand même. À savoir que dire que c'est une pratique ou une technique, c'est trop peu. Et nous, on aime bien dire qu'il y a une dimension de spiritualité laïque parce que ce que je vous ai dit en termes d'intention, vous voyez bien que ça nous amène à réfléchir à comment je considère l'être humain et comment moi je me comporte par rapport aux autres. Donc on peut dire que rien que ce travail sur l'intention, est-ce que je veux dominer l'autre, chercher à le convaincre, le menacer, ou au contraire, est-ce que je le vois comme un être humain et est-ce que je considère que ses besoins sont aussi importants que les miens, vous voyez qu'on peut appeler ça une forme de spiritualité. C'est-à-dire que ça nous amène à notre dimension, au-delà strictement du matériel, à qu'est-ce que je veux faire de ma vie, comment je veux entrer en relation avec les autres, voilà, quel est le but dans mon travail ou dans une association. Donc on peut dire, et Marshall Rosenberg était très attentif à ne pas mélanger la spiritualité avec différentes formes de religion, en tout cas concernant la communication non violente, pour ouvrir beaucoup plus largement et permettre aux personnes de trouver leur valeur fondamentale d'être humain au-delà de tout conflit de religion. Est-ce que ça répond, c'est pour vous ?
Complètement.
Voilà.
Et ça fait une belle conclusion. Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait essentiel dont on n'aurait pas parlé ?
Oui, et en même temps, j'ai envie de dire qu'elle est... Elle permet, en tout cas moi, je vois vraiment son avantage de permettre à chaque personne, quelle que soit sa religion, de ne pas accepter n'importe quoi et de passer au crible, de passer sa propre religion au crible de valeurs humaines fondamentales en termes de respect du prochain, de respect de la vie du prochain, de fraternité. Et encore une fois, que les besoins de l'autre sont aussi importants que les miens. Et peut-être une dernière phrase, Marshall Rosenberg disait que notre incapacité à satisfaire les besoins de tout un chacun sur la planète résulte bien davantage d'un manque de dialogue et de créativité que d'un manque de ressources. Et ça, pour moi, par rapport au changement social, c'est essentiel, quoi. Voilà, d'avoir cette réelle intention de prendre en compte les besoins de chacun.
Eh bien, je vous propose de passer au questionnaire qui est commun à toutes les interviews,
ouais.
Avec la première question. Est-ce que vous avez eu un échec dans votre vie personnelle ou professionnelle qui vous a beaucoup appris, qui vous a fait grandir ? Est-ce que vous pourriez nous raconter une histoire ?
Oui, c'était dans mes tout débuts de la formation, dans mes tout débuts comme formatrice. J'intervenais avec grand enthousiasme dans un hôpital. Le projet a duré sur plusieurs années. J'avais vraiment formé déjà plusieurs centaines de personnes. Et dans mon enthousiasme, la directrice des soins infirmiers avait une difficulté de management et j'ai proposé de la voir. Et je crois même que j'ai bénévolement participé à une petite réunion avec quelques-unes de ses collaboratrices. Et après ça, j'ai plus jamais été demandée dans cet hôpital. Et la directrice du service, la responsable du service formation avec qui j'étais, dont j'étais très proche, voilà, ne s'en est pas expliqué. Et mon intuition, et je l'ai plus ou moins su par d'autres collègues, parce que heureusement, j'ai pu envoyer d'autres collègues, parce que ce qui était important pour moi, c'était que le projet continue. J'ai compris que j'avais dépassé j'étais sortie du cadre de ma mission. Que dans mon enthousiasme de bien faire et de générosité, eh bien, j'avais pas respecté le cadre qui m'était fixé. Voilà. Et ça, ça m'a beaucoup appris d'être très vigilante quand je vais, par exemple, en mission de formation, de respecter. Et que, aussi, de pas confondre, je dirais, l'amitié qui peut se créer avec le fait que je suis dans un cadre professionnel. Donc, j'essaie maintenant de pouvoir garder une attitude chaleureuse, mais d'être très vigilante au respect de la place de chacun.
Et au cadre, donc.
Oui, et de ne pas faire l'hypothèse que parce que cette directrice, cette responsable formation s'était formée à la CNV, eh ben, j'avais son appui inconditionnel, quoi.
Alors, la deuxième question, y a-t-il une technique ou un outil qui vous a particulièrement fait avancer ?
Eh bien, alors là, évidemment, ça va être la CNV, parce que moi, j'ai...
Voilà. Non, mais il faut que vous m'en trouviez un autre. Non, on en a parlé de la CNV déjà.
Alors, un autre, j'ai envie de dire Tipeee.
Super, c'est le moment de nous expliquer ce qu'est Tipeee, c'est parfait.
Alors, technique d'identification sensorielle des peurs inconscientes. En fait, ça a été énorme parce que même avec la CNV, quand j'avais la colère ou des attaques de jalousie, je pouvais avoir vraiment du mal. Et avec cette simple question, qu'est-ce que ça fait dans ton corps ? Ça m'a permis de préciser finalement l'étape des sentiments de la CNV. À savoir que dans sentiments, mens, c'est le mental qui met un mot sur ce qu'on sent. Donc même tout à l'heure dans votre exemple là, par rapport à cette femme et cette relation que vous trouviez d'abus de pouvoir, vraiment la question c'est quand l'autre fait quelque chose, qu'est-ce que ça fait dans mon corps ? Et ça c'est juste énorme parce que quand on se met dans l'accueil des sensations, 10 sur 10 présents, sans plus penser ni rien, on va pouvoir désactiver des peurs inconscientes. À savoir que quand on reçoit, on a une montée d'adrénaline ou on est sidéré, paralysé, les bras m'en tombent, je vois rouge, je suis suffoqué. En fait, si on est 100% présent aux sensations, c'est le cerveau reptilien qui nous envoie par le biais des neuromédiateurs qui déclenchent ces sensations. Et quand nous, on se met à l'observation de ces sensations, alors ça va désactiver des peurs inconscientes. Et après, on va pouvoir reprendre un dialogue beaucoup plus apaisé.
Donc Tipeee, c'est une technique qui est basée sur les sensations du corps, qu'on désactive comment ?
Voilà, uniquement avec simplement en étant présent. Qu'est-ce que vous refait un impact ?
Présent à la sensation.
C'est voilà, tout. Et surtout à laisser faire. Et ça, c'est énorme, de rien faire, quoi. D'accord ? Donc on peut le vivre en direct. L'autre jour, je découvre qu'un collègue présente une formation sur le même thème que moi sans m'en avoir parlé. Oh voilà, ça fait quelque chose de très fort dans mon corps. Et j'ai pu simplement accueillir l'onde de choc en me disant « Oh là là, ça vient, malgré tout le travail que j'ai fait sur moi, ça vient encore réveiller des peurs inconscientes et ça a à voir avec mon territoire et mon besoin de sécurité. » Mais le fait de l'accueillir, sensoriellement, c'est énorme.
D'accord.
Donc c'est Tipeee. Avant, ça a été la logique émotionnelle. Avec Catherine Emley-Périssol, ça va beaucoup de pair. C'était très fort aussi. Mais vous avez dit juste une technique.
Ah oui. Donc, en plus, comme on a pris beaucoup de temps, là, allons directement à la troisième question. Ouais. Quelle est, selon vous, la qualité primordiale à développer pour être un bon manager ?
Alors, c'était difficile pour moi. Ça a à voir avec la conscience de ses propres limites et la conscience de la bonne intention de l'autre, même quand son comportement professionnel, en tout cas, ne va pas, s'il a échoué dans une mission. Ça c'est essentiel, je dis souvent dans les établissements où je travaille, avoir un crédit de bonne intention, c'est-à-dire que la personne, elle n'est pas intentionnellement en train de saboter le travail.
Alors ça veut dire qu'on part du présupposé que tout le monde a de bonnes intentions ?
En tout cas que c'est exceptionnel qu'un collaborateur au travail veuille oui, mal faire le travail. Et je trouve que d'avoir tête, ça met dans une disposition d'empathie et de pouvoir aller chercher la cause, je dirais, d'un échec sur une mission ou d'une tâche qui est mal faite, mais sans l'imputer directement à une mauvaise volonté de la personne. Ça peut arriver qu'il y ait une mauvaise volonté, mais dans ce cas-là, on va voir ce qui, dans le système, dysfonctionne.
Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller à la lecture ?
Eh bien, écoutez, ma chère collègue a écrit... Alors, un livre de communication non-violente, ça vous va ?
Ah bah oui, oui, ça me va, si voilà. Vous avez...
Puisque c'est dans le domaine du management, je conseillerais le livre de ma collègue Françoise Keller, « Pratiquer la CNV au travail ».
Keller, K-E-2-L-E-R ?
Et bien sûr, après avoir lu d'abord notre petit livre en introduction.
Bien sûr.
Parce que le petit livre chez le...
Dans la collection C'est Malin Poche de Le Duc.
Oui, Le Duc, parce qu'il est court et simple. Et après ça,
oui, c'est vrai.
Si on veut, il est court et simple. Hein. Et après ça, si on veut vraiment approfondir, puisque là, on est dans le domaine du travail, mais la CNV au travail, vraiment, le livre de Françoise Keller est très fouillé. Quoi. Ouais.
D'accord. Et on finira avec une citation qui vous inspire.
Alors, si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux loin, va à plus peur.
Ouais, oui, elle est très belle cette phrase. C'est un proverbe africain, non, je crois.
Je crois. Je la cherchais avant l'interview, je ne l'ai pas retrouvée. Parce que les gens, dans le milieu du travail, on veut souvent aller vite et à l'efficacité. Et effectivement, les gens me disent oui, mais la communication non violente, ça va perdre du temps. Ça va prendre du temps. Je dis oui, mais je dirais le plus sûr chemin vers l'efficacité passe par la relation.
Merci beaucoup. Donc, je mettrai la citation et le livre dans la description de ce podcast.
Oui.
Et je finis. Alors maintenant, je ne sais pas, c'est ma nouvelle tradition. Voilà, je finis par exaucer les rêves, les vos souhaits. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? De quoi vous avez envie ? Je vous l'accorde d'office.
Ah, d'office. Alors là, je rêve et j'espère que vous allez m'aider à donner le goût aux médecins de s'ouvrir à cette démarche, parce qu'il y a beaucoup de violence et il y a beaucoup de souffrance, je dirais, dans le monde de la santé. Les médecins eux-mêmes sont soumis à beaucoup de pression. Ces pressions-là retentissent aussi beaucoup sur le personnel et après sur les patients. Donc je cherche comment inspirer, je dirais, mes chers confrères. Je suis très touchée par le livre de Martin Winkler qui s'appelle « Brut en blanc ». Le titre est très choquant, mais je l'ai quand même lu parce qu'il y a beaucoup d'abus de pouvoir dans le domaine de la santé. Et en même temps, je suis très attristée parce que ce n'est pas en critiquant comme ça les médecins que ça va les aider à s'ouvrir à un changement de comportement qui pourrait leur faire du bien à eux-mêmes et aussi aux patients et à vivre des relations plus satisfaisantes et puis à contribuer aussi, je dirais, à sauver la médecine, hein, qui en a besoin aujourd'hui. Voilà, donc
qui est la médecine qui est le soin, donc ça paraît évident qu'il faut s'ouvrir à ça dans ce milieu.
Ouais.
Voilà. Et ben c'est en route et
voilà.
Et j'ai le même souhait.
Là, vous avez le même souhait et puis j'espère que des médecins qui écouteront cette interview et voilà.
Merci Pascal de nous avoir éclairé sur ce qu'était la communication non violente et puis aussi un grand merci pour avoir été patiente. C'est assez exceptionnel que je m'exprime sur des exemples aussi personnels et actuels. Donc merci à vous de votre indulgence, de m'être un peu étalée. J'espère que cet exemple très pratique et très actuel pour moi vous aura peut-être aussi aidé à mieux comprendre la CNV. On se retrouve, j'espère, la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast de Mood Step. Je vous souhaite une excellente semaine.